ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi ?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux ?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été ?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit ?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville ?
Est-ce qu'on sera solidaires entre nous ?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Notre Ville, Regard vers le futur, une émission de la MCC, la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse, portée par la AGLCA, Altec et la MJC Popcorn, qui propose du coup d'imaginer notre ville en 2050 via des projections concrètes. Je suis Marine Adam et aujourd'hui nous allons évoquer ensemble les enjeux de l'agriculture et donc de l'alimentation de demain. Pour ça, je suis accompagnée par Rémi Pascal. Un grand merci de t'être rendu disponible, Rémi. Est-ce que je peux te laisser te présenter rapidement à nos auditeurs et auditrices ?
Mais pas de souci. Bonjour, bonjour Marine, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Rémi Pascal, je suis agronome. Donc je travaille dans une entreprise qui fait de l'accompagnement agricole. Donc on accompagne les fermes dans leur transition vers l'agroécologie. Donc pour qu'elles continuent à faire leur métier premier, ce qui est de nourrir, mais en ayant moins d'impact sur l'environnement. Et je m'intéresse à côté aux enjeux agricoles et alimentaires. C'est pour ça que à cette même antenne l'année passée avec un ami Thomas, on a réalisé une émission qui s'appelle Plat de résilience, qui présente voilà, en 11 épisodes quels sont les enjeux qu'on va résumer aujourd'hui, qui répond à une question simple, comment on va se nourrir demain.
Tout à fait. Je vous conseille du coup, auditrices et auditeurs, d'écouter ces émissions qui sont vraiment de qualité. Donc vous l'aurez compris aujourd'hui, pour cette cinquième émission, nous abordons un sujet, et pas des moindres, notre alimentation. Et impossible pour moi de ne pas parler de sa jumelle, l'agriculture. Eh bien oui, ce qu'on mange est interdépendant de nos systèmes agricoles et qui sont eux-mêmes corrélés au climat et à la biodiversité environnante. Donc ensemble aujourd'hui dans cette émission, on va apprendre des choses, parler d'actions concrètes et bien évidemment imaginer un futur désirable. Et c'est parti, tu es prêt Rémi ?
Je suis tout oui.
Génial. Alors je crois avoir entendu que nous avons ici en Bresse 300 jours d'autonomie pour la viande, d'autonomie alimentaire, mais uniquement 0,5 jours concernant les légumes. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces chiffres sur notre autonomie alimentaire ? Puis d'ailleurs, est-ce que tu peux nous préciser ce que ça signifie cette autonomie ?
L'autonomie alimentaire, quand on est autonome, on n'a pas besoin d'importer. On a suffisamment pour se nourrir. Ce qui amène à poser la question de souveraineté alimentaire. Quand je suis souverain, j'ai le pouvoir de décider de ce que je mange. Donc au niveau du département, il n'y a pas de chiffre très précis. Néanmoins, quand on regarde la surface de production qu'on a dans le département et la surface dont on a besoin pour nourrir la population avec ce que mange un Français moyen, on arrive à peu près à tes chiffres.
Okay.
Le département, il est excédentaire en céréales, c'est-à-dire qu'on produit bien plus que ce qu'on a besoin pour nous nourrir. On produit quasiment assez pour se nourrir en viande, en huile, voilà, ce genre de choses. Par contre, on est très déficitaire en fruits et légumes, mais ça, c'est vrai pour toute la France. Après, ces chiffres, ils n'ont pas vraiment d'importance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne mange pas dans le département ce qu'on produit dans le département. Ça, c'est une réalité, c'est qu'on a un système alimentaire qui est à l'échelle nationale. Donc, tout ce qu'on produit dans l'Ain, il part ailleurs, un peu partout, dans des usines de transformation, et il revient chez nous par les canaux de distribution, donc par les supermarchés, par la restauration collective, ce genre de choses. Et en fait, tous les achats alimentaires se font quasiment que dans les supermarchés, la restauration collective, les boucheries, les boulangeries, donc pas directement au monde agricole. C'est très rare, en fait, c'est moins de 10% des achats qui se font directement aux exploitations agricoles. Donc en gros, il y a une redistribution nationale qui est faite. Ces chiffres, ils sont intéressants, mais ça ne reflète pas tout à fait la réalité.
Oui, il ne faut pas les prendre en tant que tels.
Voilà, ouais, tout à fait.
Ok. Et dans le rapport du GIEC, que tu as sûrement déjà peut-être lu ou lu les synthèses, dans celui qui s'appelle « Changement climatique et terre », il suggère qu'à partir de 3 degrés de réchauffement, l'insécurité alimentaire devient généralisée sur la planète. Alors, est-ce que du coup, il y a des enjeux pour nous à davantage axer justement sur, comme tu dis, une souveraineté alimentaire ? À qui cela peut profiter concrètement ?
Le problème du changement climatique, c'est que pour l'agriculture, il rend instable la production. Donc, tu as une année normale, tout va bien, tu produis ce que tu avais prévu. L'année d'après, c'est trop humide, tu perds 40% de rendement. L'année d'après, il fait trop sec, tu perds 60% de rendement. Donc, ça fait le yo-yo et ça pose deux problèmes. Le premier, c'est pour les exploitations agricoles. Elles sont déjà en très grande difficulté et elles doivent se tirer un revenu constant avec une production qui est variable. Donc l'enjeu, il est énorme. Et pour la population, bah, nous, on a toujours besoin de nourrir tous les jours.
Besoin primaire,
il faut qu'on mange. Donc une production qui est variable, bah, ça pose des vraies questions de sécurité alimentaire demain. Alors la situation, elle n'est vraiment pas la même pour la France, pour d'autres pays. Mais quand vous ne produisez pas assez, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas acheter ailleurs, tu importes. Et le truc, c'est que la production mondiale, elle ne va pas augmenter dans les années à venir. Peut-être que certaines années, elle augmentera, mais l'année d'après, elle sera plus faible. En fait, elle va faire, bah, comme chez nous, le yo-yo. Donc, ça va être compliqué d'assurer une production avec une situation qui va exacerber un peu les tensions. Et le GIEC le dit, entre les années 80 et 2010, les rendements des céréales, enfin la production des céréales, a déjà diminué de 10% au niveau mondial. Donc la situation, en fait, elle va être la même pour tous les pays. Celui qui s'en sortira le mieux, c'est celui qui sera le moins vulnérable. Donc celui qui sera le plus autonome. Donc il va falloir être capable de se nourrir correctement, ça c'est sûr, sans trop dépendre des autres, et quoi qu'il arrive. Donc changement climatique, Covid 2.0, tensions géopolitiques, sais-je. Voilà. Donc l'autonomie, oui, elle va être...
C'est un enjeu majeur.
C'est un enjeu majeur.
Ok. Un des autres enjeux majeurs, justement, quand on parle de production, on pense du coup aux agriculteurs, aux paysans. Un des chiffres qui peut inquiéter les auditeurs et les auditrices, c'est ce chiffre, en France, un quart des agriculteurs en moins d'ici une dizaine d'années. Et on dirait que du coup, pas grand-chose n'est fait pour freiner cette tendance. La population des travailleurs agricoles, elle est vieillissante, elle peine à se renouveler. Est-ce que, du coup, tu as des chiffres sur les départs prévus localement, peut-être de ces agriculteurs et paysans? Et vu les enjeux, justement, qui pèsent, dont tu viens de nous parler, géopolitique, sur la biodiversité, sur le climat, est-ce qu'on a un chiffre aussi sur le besoin de ces nouveaux paysans agriculteurs pour nous nourrir localement de manière soutenable?
Ce qui est marrant, c'est que... Enfin, marrant, je m'entends. La situation dans le département, elle est vraiment similaire à la situation française.
D'accord.
On a, dans le département de l'Ain, 4000 agricultrices agriculteurs. C'est 400 000 au niveau français. Donc,
okay.
On a 1% du monde agricole dans le département français, on pourrait se dire. L'âge moyen, c'est 52 ans, donc plutôt proche de la retraite. Et le chiffre, il est même plus élevé que celui qu'il a donné. On estime qu'on a à peu près la moitié des chefs d'exploitation qui vont partir d'ici 2030, d'ici 5-10 ans.
Okay.
Donc, combien il faudrait... demain, de personnes qui s'installent dans le monde agricole pour garder la situation d'aujourd'hui ou d'hier, il faudrait que dans le département, on ait 2000 personnes qui s'installent dans les 5 à 10 ans, ce qui est colossal. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Aujourd'hui, en France, c'est à peu près 14 000 personnes qui s'installent tous les ans.
Okay.
En tout cas, ça paraît quand même vital de freiner ce véritable génocide qui est en train de se passer, parce que les sociologues parlent de ça. Il y a un effondrement en fait, de la population agricole.
D'accord.
C'est vraiment, elle est en voie de disparition. Donc, plus on le freinera, en fait, l'enjeu derrière, c'est plus on sera capable de sauvegarder notre souveraineté alimentaire. Parce que si demain, il y a de moins en moins d'agricultrices et d'agriculteurs dans les champs, qui c'est qui va aller cultiver? Parce qu'il faudra quand même le faire. On a un risque que ce soit les entreprises ou des puissances étrangères qui viennent, parce qu'elles auront le capital nécessaire. Ça coûte très cher de s'installer. Et sauf que l'intérêt d'une entreprise étrangère ou d'une puissance étrangère, ce ne sera pas forcément d'assurer la sécurité alimentaire du pays en question dans lequel elle est.
Oui, ça sera plus ses enjeux économiques à elle.
Voilà, ou des enjeux géopolitiques, ou exporter la nourriture, comme ça se fait déjà dans certaines parties de l'Europe. On a des puissances étrangères qui ont des fermes, et donc elles récupèrent la nourriture qui est produite. Ce n'est pas interdit en soi.
Oui.
Donc il va falloir absolument mettre des moyens, donc mettre de l'argent pour rendre le métier attractif, pour sécuriser les installations agricoles, les augmenter. Et il y a un enjeu qui est colossal, qui est encore plus gros que celui-là, c'est sauver les fermes aujourd'hui. La situation économique et sociale, elle est désastreuse. Et en fait, les deux sont liés. Si aujourd'hui, les fermes, elles n'attirent pas de nouvelles personnes, c'est parce que vivre de son métier d'agriculteur, c'est compliqué aujourd'hui.
C'est difficile, oui.
Tout à fait.
Et justement, est-ce qu'on a une idée de demain, notre biotope et donc, qu'est-ce qui va pousser, en fait, par chez nous? Est-ce que, justement, les paysans d'aujourd'hui... Ne cultiveront pas la même chose demain?
Alors ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y aura des changements brutaux dans les 5 années? Non, ça va se faire progressivement, mais néanmoins, ça va se faire très vite. Le climat du département de l'Ain, alors, pour regarder très précisément, il pourrait ressembler à un climat méditerranéen doux demain. Néanmoins, ce ne sera pas strictement le même climat qu'à Marseille. Hein.
Oui,
il y aura des variations de température que le monde ne connaît pas aujourd'hui. Donc, il va falloir adapter les cultures.
Oui.
Qu'est-ce qu'on produit en fait dans le sud de l'Europe ou en Provence aujourd'hui? On cultive des arbres, hein, on cultive plus d'oliviers, des vignes. Demain, des citronniers, des orangers. Donc, c'est des choses qui vont monter progressivement en France.
Mm-hmm.
Donc, monter du sud au nord, oui. J'entends. Et il y a un enjeu sur l'eau. L'eau, elle va être moins disponible demain avec des variabilités énormes. Donc, le département qui consommera beaucoup d'eau, il sera pénalisé. Donc, des cultures comme le maïs ou tout ce qui est irrigation, ça va être plus compliqué. Donc, il y a déjà des adaptations qui sont faites aujourd'hui. Mais on peut se dire quand même que la surface de culture irriguée demain, elle sera amenée à bouger, en tout cas. Mais il y a un enjeu de transition agroécologique de manière plus large. C'est
qu'
il faut adapter nos cultures, mais il faut adapter aussi nos pratiques agricoles, donc les manières de faire pousser des plantes, d'élever des animaux. Il va falloir aussi adapter nos paysages pour mieux retenir l'eau, mieux la capter, créer des microclimats.
Et c'est quoi l'agroécologie?
L'agroécologie, parce que c'est un mot dont on entend beaucoup parler, dit simplement, c'est on va chercher à imiter ce qui marche dans la nature, donc chercher à imiter le fonctionnement de la nature, donc limiter les interventions humaines le plus possible. Donc, c'est quoi les interventions humaines? C'est les pesticides, les engrais, le travail du sol. Ça coûte de l'argent, ça a un impact, donc on va chercher à limiter le plus possible.
Okay.
Donc, on va protéger le sol pour qu'il soit en bonne santé.
Mm-hmm.
Si le sol est en bonne santé, les plantes seront en meilleure santé. Et une plante en meilleure santé, c'est comme toi et moi. On a moins besoin de médicaments, on a moins besoin de pesticides, on a moins besoin d'être nourri artificiellement, donc par des engrais. On va avoir besoin moins de travailler le sol, donc moins utiliser de carburant, donc moins de fuel, moins d'importation de l'étranger, donc plus de souveraineté. Donc, dit simplement, c'est rendre les fermes plus autonomes et plus vivantes. Voilà. Donc on est déjà très avancé au niveau français sur ces questions-là, hein, sûrement les leaders mondiaux. Donc on est
super,
loin
ça.
D'être à la traîne. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment chouette.
Et justement, sur une ville comme Bourg-en-Bresse, quels sont les moyens dont on dispose avec une ville comme la nôtre pour y répondre à ces enjeux d'agroécologie?
Ah, c'est pas une question facile parce que les enjeux, ils sont à la fois européens et français.
Oui,
ils
sont corrélés.
Ils sont totalement corrélés. On a créé une politique agricole commune dans les années 60 qui vise à européaniser notre modèle agricole. Alors les villes, dans tout ça, c'est compliqué de se faire une place. Il faut déjà se dire que la ville, c'est un réservoir de consommateurs. C'est là où il y a de l'argent, mais il n'y a pas de terre agricole. Donc je pense qu'il y a trois enjeux. Le premier, il est sur la sensibilisation des citoyens. On va pouvoir amener de l'agriculture dans les villes, ça n'aura aucun effet sur notre sécurité alimentaire. Hein. Ce n'est pas dans des bacs ou sur 3 mètres carrés qu'on va se nourrir. Néanmoins, ça peut sensibiliser le consommateur
à
ce que c'est que la réalité de production.
Mmh.
Donc ça, c'est un enjeu plus de sensibilisation. Après, il y a un enjeu sur le foncier, parce que les villes, elles s'étendent, donc elles mangent du foncier agricole. Donc ce foncier, il va falloir le protéger. Il va falloir le sortir de la spéculation immobilière. Parce qu'on va avoir besoin de terres agricoles demain pour compenser. On va avoir besoin de tout, hein, tout ce qu'on a, pour compenser les variations de rendement.
Oui.
Donc il y a un enjeu sur le foncier et les villes ont quand même un certain pouvoir là-dessus.
Okay.
Et le dernier enjeu, je pense qu'il est sur les modes de commercialisation. Comme les consommateurs, ils sont beaucoup en ville. Leur offrir des points de vente où les agricultrices et les agriculteurs puissent vendre directement leurs produits sans passer par des intermédiaires, donc au juste prix. Qui plus est, s'ils s'engagent dans une transition agroécologique, ce sera extrêmement important.
Mm-hmm.
Donc avoir des magasins de producteurs, ça peut paraître ridicule face aux géants de la distribution, mais je pense qu'il y a un enjeu qui est colossal. Parce qu'il faut leur sécuriser leur production demain et leur vente.
C'est ça.
Leur revenu, en fait.
Justement,
c'est
tirer
ça.
Un revenu, quoi. Super. Et est-ce qu'il y aura des conséquences sur le consommateur, justement, pour cette nouvelle agriculture de demain?
Ça, c'est sûr. Peut-être que le plus visible pour le consommateur, ce sera en premier le prix.
Oui.
Demain, l'agriculture, elle va devoir dépenser plus d'argent pour produire la même chose.
Oui, c'est ça.
Donc, le coût de production, je vois pas comment il va pas augmenter.
Parce qu'on a économisé beaucoup d'argent, a utilisé beaucoup les énergies fossiles, les engrais et tout ça. Ça nous a permis d'avoir une super productivité.
Exactement, mais cette productivité, elle va être mise à rude épreuve.
Oui, c'est ça.
Donc même si demain on continue à en utiliser autant, ces ressources naturelles, le carburant, les productions, elles vont climatiquement varier.
Oui.
Donc il va falloir veiller à ce que le coût de production, qui va augmenter, ne se répercute pas sur le prix final d'achat. Ça, ça ne va pas pouvoir se faire de manière... de la même manière pour tous les produits. Mmh. Plus un produit est transformé, plus il demande d'intermédiaires, moins potentiellement il est bon pour la santé aussi, donc il va falloir peut-être d'abord se concentrer sur les produits de première nécessité. Donc il y a un contrôle peut-être des marges des intermédiaires, enfin, il va falloir regarder, hein, c'est un peu l'ambition de la loi Egalim qui, a déjà été, qui est déjà dans les tuyaux politiques. Dans tous les cas, ça va être plus compliqué avec notre modèle agricole d'aujourd'hui, qui est dépendant d'intermédiaires, qui est dépendant d'énergie, de garder un prix qui ne va pas augmenter. Parce que, bah, tout simplement, le prix de l'énergie, il fait qu'augmenter. Et ça, ça va, je ne vois pas comment non plus ça peut changer demain. Il faut de l'énergie pour mettre de l'essence dans le tracteur, pour fabriquer des engrais, pour transporter la nourriture, parce que notre nourriture, elle voyage beaucoup,
oui.
Pour la distribuer, pour la transformer. Donc demain, bah, la nourriture qui sera la moins dépendante des transports, la plus territorialisée, bah, on peut se dire qu'elle sera la plus à l'abri d'une augmentation de prix. Donc il y a un enjeu sur ce prix-là qui va être une question politique cruciale, qui est déjà une question cruciale. Et puis je pense qu'il y a deux choses qu'il faut qu'on comprenne. Un enjeu global, ce qui est en train de se jouer, c'est un enjeu géopolitique. Parce que si demain notre modèle agricole il est toujours autant dépendant de l'étranger, il sera plus enclin à subir les ingérences étrangères. Et il y a des pays comme la Russie et la Chine qui se délectent d'une Europe qui baisse au niveau puissance et au niveau puissance agricole. On est quand même la première puissance agricole mondiale. Et ils vont en bénéficier. Donc avoir des fermes qui sont autonomes, c'est avoir une Europe qui soit le plus autonome et qui soit la plus solide demain, la plus robuste face à des puissances qui veulent, entre guillemets, notre peau. Et il y a un enjeu très social, et je finirai là-dessus, c'est que la société comprenne la réalité du monde agricole. Et ça, on est à vraiment mille lieues de comprendre. Ils sont face, dans tous les cas, à un enjeu climatique, mais ils ne sont pas compris, en fait, parce qu'ils doivent se tirer un revenu constant avec une production qui va être de plus en plus variable. Donc, il va falloir, on n'a pas le choix, mettre des moyens et mettre de l'argent pour continuer à avoir quelque chose qui est considéré comme acquis, manger.
Oui, tout à fait.
Parce que la réalité, elle change. Et oui. Si, en tout cas, on ne s'adapte pas, on paiera beaucoup plus le prix de celui de notre adaptation aujourd'hui.
Super intéressant. Merci, Rémi. Justement, on parlait de productivité qui va peut-être baisser, d'un prix pour le consommateur qui, justement, en fonction des réglementations, va peut-être rester à niveau pour les produits de première nécessité, voire augmenter. Il y a une initiative qui a nourri notre curiosité, voire même notre idéal, la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, est-ce que tu connais ? Moi, je peux te la présenter un petit peu si tu veux, puisque du coup, il y a un collectif qui se crée aussi ici. Alors, déjà un chiffre, en France, plus de 8 millions de personnes font partie d'un foyer se déclarant en insécurité alimentaire pour des raisons financières. Donc ça, c'est le ministère de la Santé et de la Prévention qui nous le dit. De quoi questionner profondément notre système alimentaire. Et de s'interroger aussi sur des possibles pistes. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et la sécurité sociale de l'alimentation, la SSA, en fait partie. Alors l'inspiration de ce projet, en fait, c'est la sécurité sociale de la santé à sa genèse. Donc dans les années 45, 60, après-guerre, où c'est les travailleurs ouvriers qui ont mis en place ce système mutualiste. La SSA, elle répond à plein de problématiques à la fois. Elle permet à tout le monde de choisir son alimentation, de rester en bonne santé, mais aussi, comme tu nous le dis, de préserver le climat et la biodiversité, ce qui est un enjeu majeur, de garantir le droit à l'alimentation, d'améliorer les conditions de travail et de revenus des paysans, et ça, c'est vraiment un enjeu majeur que tu viens de nous expliquer, et d'augmenter le nombre de paysans dans les campagnes. Et surtout, on sait que c'est possible, la SSA, parce qu'en fait, on l'a déjà fait pour la sécurité sociale de la santé. Et donc, comment ça marche ? Chaque personne reçoit une carte d'alimentation créditée de 150 euros par mois pour l'achat de produits. Et ces produits viennent de magasins, de producteurs, de restaurants, justement locaux, qui ont été conventionnés par la SSA. Et donc, chacun, chacune va cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Il y a un principe donc d'universalité, de solidarité. Et les personnes sans revenus ne cotisent pas, mais ont une carte comme tout le monde. Voilà, c'est le droit à l'alimentation, c'est-à-dire le droit de se nourrir dans la dignité. Il y a une caisse par bassin de vie, et donc des citoyens, citoyennes sont tirés au sort pour définir les critères de conventionnement que ces caisses vont mettre en œuvre, en adaptant bien sûr les systèmes de production qui vont être nécessaires à ces objectifs afin d'organiser la transition agroécologique pas à pas. D'ailleurs, une petite recommandation lecture pour finir. Une petite BD, je ne sais pas si tu l'as lue, Rémi, Encore des patates. Est-ce que tu l'as lu ?
Ah oui, je l'ai lu, oui.
Super. Et donc, une petite BD qui explique très bien ce fonctionnement. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de vous la mettre à prix coûtant, à 2 euros. Je vais en laisser à l'accueil de la MCC, si vous voulez vous en procurer. C'est vraiment une mine d'or pour comprendre un petit peu ce fonctionnement de la SSA et peut-être justement de pouvoir rejoindre le collectif en cours qui est en train de l'expérimenter. Je laisserai leur contact dans la description du podcast sur le site de Radio B. Un grand merci à toi Rémi.
Merci à toi Marie.
Merci à Radio B et sur le site internet, vous pouvez retrouver tous nos podcasts. Merci pour votre écoute et on espère à bientôt.
À bientôt.
À ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi ?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux ?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été ?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit ?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville ?
Est-ce qu'on sera solidaires entre nous ?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi ?